Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Aujourd'hui, avec moi dans le studio de RDWA, Jean-Loup Meureau qui est venu annoncer une soirée de soutien aux éleveurs en lutte, aux éleveurs ovins, qui aura lieu à Puy-Saint-Martin, la salle des fêtes, à 19h30 le 11 avril de cette année. Bonjour Jean-Loup.
Bonjour.
Alors j'espère qu'on va pas vous prendre pour des mécontents professionnels, mais il y aurait encore du rififi dans l'air concernant les éleveurs ovins et leurs relations avec leur organisme de tutelle, le ministère de l'Agriculture. Alors pour ceux qui auraient peur de venir à une soirée trop politisée, rassurez-vous, ce vendredi 11 avril 2014 à la salle des fêtes de Puy-Saint-Martin, on parlera de moutons et de problèmes divers et variés, mais aussi vous aurez l'occasion de vous amuser avec un apéro musical avec des merguez crêpes. À 20h30, la clown de Chabeuil qui était passée à la Transhumance de l'année dernière, Rosie Volt, fera encore des siennes. Quant au Taraf des Trois Becs, le groupe de Saillant, qui est quand même assez connu des Diwa, il interviendra à 22h pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
Oui, juste une petite rectification. Il ne s'agit pas que des éleveurs ovins, mais aussi des éleveurs caprins qui sont concernés, et même sur certains aspects, tous les éleveurs de ruminants, c'est-à-dire y compris les bovins pour certains aspects, quoi.
Donc alors, liste-nous un petit peu ton cahier de doléances. Quels sont les soucis qui vous obsèdent et qui vous harassent ?
Donc, il faut juste rappeler que l'an dernier, à la fin janvier 2013, on a fait ce qu'on a appelé une transhumance festive qui est partie de Mornant à côté de Soux jusqu'à Valence pendant 4 jours avec un troupeau de brebis. Pour manifester notre refus de l'obligation du bouclage électronique. Hein. Vous savez qu'il y a un règlement européen qui a été donc d'application française qui nous oblige les éleveurs de petits ruminants, donc chèvres et ovins, à identifier nos animaux avec une boucle électronique. Le deuxième aspect aussi, c'était des menaces sur l'obligation qu'on aurait de se fournir en reproducteur mâle auprès de ce qu'on a appelé des éleveurs certifiés. Bon, cette disposition qui était dans un texte d'orientation de la loi agricole de 2006 vraisemblablement va être annulée par un article de la loi prochaine qu'on appelle la loi d'avenir agricole. Voilà, donc sur ce plan-là, on a gagné, mais reste la question du bouclage électronique. Alors, la tension qu'il y a actuellement, c'est qu'il y a un certain nombre d'éleveurs en France qui ont eu des contrôles, qu'on appelle des contrôles de conditionnalité de la PAC, c'est-à-dire que des gens de l'administration, soit l'agence de services de paiement, soit la DDPP, vont chez les éleveurs pour contrôler si un certain nombre de dispositions réglementaires sont remplies, et notamment le bouclage électronique. Et donc, suite à ces contrôles, des éleveurs qui n'étaient pas en règle se sont vus infliger des sanctions qui, chez certains éleveurs, sont très lourdes. C'est plusieurs milliers d'euros de pénalités sur le montant des aides PAC qu'ils doivent percevoir, plus une amende. Donc, il y a un couple d'éleveurs dans le Tarn, Nathalie et Laurent, qui ont eu une pénalité de 15 000 euros, plus 4 000 euros d'amende. Et un autre éleveur breton que je connais dans l'Ille-et-Vilaine, c'est autour de 4000 euros de pénalité sur ses aides.
Alors, je te prie de m'excuser de t'interrompre, Jean-Louis, mais juste un tout petit débat de fond pour rappeler les tenants et aboutissants de ce problème de puçage. Qu'est-ce que vous reprochez au puçage et qu'est-ce qu'au ministère de l'Agriculture et dans les hautes sphères, ils attendent de ce dispositif ?
Eh bien, si tu veux, le puçage est présenté par l'administration comme une nécessité des raisons d'efficacité en cas de crise sanitaire de contrôle des animaux. Hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est donc un règlement européen, c'est tous les pays de l'Europe qui sont concernés. Mais dans les pays où il y a moins de 600 000 ovins ou moins de 150 000 chèvres, eh bien, les éleveurs ne sont pas obligés de faire ce bouclage électronique. Mais ces pays peuvent être concernés aussi par une crise sanitaire. Par exemple, le Luxembourg, les éleveurs ne sont pas obligés de faire ce bouclage électronique, alors que les Allemands ou les Français à côté sont obligés. Mais s'il y a une crise sanitaire, elle concernera aussi bien le Luxembourg que l'Allemagne ou la France. Et donc, cette dérogation, elle indique que ce n'est pas absolument nécessaire, sur le plan de la maîtrise sanitaire, qu'il y ait un bouclage électronique. Nous, ce qu'on y voit plutôt, c'est que ce qu'on veut nous imposer par là, c'est une façon de travailler. On perçoit, si tu veux, au travers de ça, une certaine forme d'industrialisation de nos élevages. Alors, bon, si des éleveurs sont attirés par... la gestion de leurs troupeaux au moyen de l'informatique, moi personnellement, j'y vois pas d'inconvénient, c'est leur affaire. Mais il faut pas qu'on impose à l'ensemble des éleveurs cette façon de travailler si ça leur correspond pas, quoi, s'ils ne le souhaitent pas, quoi.
Est-ce qu'au niveau du puçage, quand on introduit une puce dans l'oreille d'un ovin ou d'un caprin, est-ce que ça a des incidences sanitaires ? Est-ce que ça peut dégénérer, s'infecter ?
Ce qu'on constate, c'est que la puce électronique, c'est un petit objet qui est introduit dans une boucle en plastique qui est fixée sur l'oreille de l'animal. On avait déjà une identification dans l'oreille au moyen d'une boucle en plastique. Ce qui se passe avec la boucle électronique, c'est qu'elle est un peu plus lourde que la boucle uniquement plastique. Donc, il peut y avoir une incidence sanitaire. Après, sur l'effet du composant électronique qui est introduit dans la boucle sur la santé de l'animal, à ma connaissance, on n'a pas d'observation précise, mais certains éleveurs pensent que ça peut induire un trouble à la longue chronique sur les bêtes, quoi.
Qui paye ces fameuses boucles électroniques ?
Alors, les boucles électroniques, si tu veux, le coût, c'est aux alentours d'un euro la boucle. Alors, jusqu'à présent, on avait l'obligation de mettre la boucle électronique sur les animaux nés dans l'année. Par exemple, les agnelles ou les chevrettes qu'on gardait de l'année en cours doivent être identifiés avec cette boucle électronique. Et là, on percevait une subvention... qui ramenait le coût du bouclage équivalent à un bouclage non électronique, c'est-à-dire autour de 20-25 centimes, si je ne me trompe pas de mémoire. Mais ultérieurement, on a des craintes que ce sera payant plein pot, donc autour d'un euro la boucle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tous les animaux qui quittent l'exploitation doivent être bouclés électroniques, c'est-à-dire par exemple des agneaux qui ont quelques mois d'âge, qui vont à l'abattoir, doivent tous avoir la boucle électronique. Donc on a un coût, un surcoût là, d'autour d'un euro par agneau commercialisé, qui est aberrant, quoi. Alors, il faut savoir que dès que la bête arrive à l'abattoir, dans l'heure suivante, eh ben, c'est fini, la boucle elle s'en va au déchet, quoi.
Donc toi, tu y vois une perte de temps et une tracasserie administrative de plus.
Oui, surtout, si tu veux, c'est une façon de nous impliquer dans un fonctionnement qui ne nous convient pas, quoi, hein, qui est contraire à l'orientation qu'on a avec le lien particulier et affectif qu'on a avec nos bêtes, quoi. Et puis, ce qu'on voit là dans l'élevage, on constate aussi, dans d'autres secteurs de la société, la pénétration et l'utilisation de l'outil informatique dans différents corps de profession, par exemple chez les infirmières ou les instituteurs, etc., impose des contraintes aberrantes. Il y a si tu veux, une rationalité qui se met en place au moyen de l'informatique qui est, moi je dirais, qui est une entrave à l'humanité et au caractère affectif qu'on peut avoir dans nos relations avec les autres gens ou avec les animaux.
Parce que vous, éleveur, cette boucle informatique ne vous sert à rien pour repérer des bêtes ou avoir un dossier médical sur chacune d'entre elles ou...
Alors, il y a des éleveurs qui sont, je dirais, qui sont un peu entichés de technique. Il faut savoir que quand tu as tes animaux qui sont bouclés, si tu veux l'utiliser... il faut que tu t'équipes de lecteurs d'informatique. Parce que la boucle, elle n'a que le numéro de l'animal. Hein. Et il faut qu'après, au moyen de la douchette, comme il y a dans un supermarché sur les produits qu'on achète, voilà, il y a une lecture du numéro de l'animal. Et après, ça a un lien avec un logiciel de gestion du troupeau, par exemple, que tu peux avoir. Mais tout ça, c'est une façon de travailler qui correspond à certains éleveurs, mais qui sont minoritaires. Il faut savoir qu'il y a un corps d'inspecteurs du ministère de l'Agriculture qui s'appelle le Conseil général de l'agriculture et de l'alimentation et de la forêt, des espaces ruraux, qui a fait une enquête l'an dernier, et qui est notamment deux inspecteurs qui sont venus dans la Drôme, qui ont interviewé des éleveurs et qui ont remis un rapport. Et dans ce rapport, ils constatent que l'utilisation de l'outil informatique, il n'est rentable, il n'est valorisable qu'à partir d'un gros troupeau, des gens qui ont, disons, autour de 500 brebis, quoi. Ce qui ne correspond pas du tout aux effectifs moyens qu'on a, nous, dans la Drôme, quoi.
Et toi, tu trouves que ces sanctions sont disproportionnées par rapport à la faute, à la peccadille commise ?
Ces sanctions, elles sont disproportionnées, parce que des éleveurs qui ont un retrait de plusieurs milliers d'euros sur des montants d'aide de 10 000 à 20 000 euros, c'est considérable et ça va impacter lourdement l'économie des exploitations, quoi. Et surtout, c'est une injustice, parce que c'est pas respecter la liberté des éleveurs de gérer leurs troupeaux comme ils le souhaitent et avec le lien particulier qu'ils entretiennent avec leurs animaux, quoi. Parce que, si vous voulez, ce qu'il faut, par exemple, ce qu'il faut voir, c'est que on a, par exemple, un éleveur, il a 100 brebis. S'il a 50 brebis qui sont pas identifiées de façon réglementaire électronique, l'administration va considérer que ces 50 brebis n'existent pas sur le plan réglementaire. Et donc, il va avoir une pénalité sur ce qu'on appelle les aides ovines, mais aussi, il va être pénalisé sur d'autres aides, parce qu'on a des aides environnementales où on est supposé avoir un certain chargement à l'hectare. Et si on a, disons, une forte proportion du troupeau qui n'existe pas, on n'est plus dans le chargement à l'hectare. On n'est plus dans la norme de chargement à l'hectare. Et donc, on est pénalisé là aussi sur les autres aides. Donc, c'est l'ensemble des aides qui sont impactées, quoi.
Alors, tu parlais de liberté des éleveurs et je crois me rappeler, tu ne l'as pas dit en introduction, mais que une de vos autres doléances, de vos plaintes, était aussi le fait qu'il devenait illégal de soigner ces bêtes avec des plantes, voire des teintures mères, si je ne m'abuse.
Oui, tout à fait. Alors, c'est aberrant, c'est que depuis le mois d'août dernier, on a cette nouvelle contrainte, alors qu'il faut rappeler que le ministère de la Santé et le ministère de l'Agriculture ont lancé un plan qui s'appelle le plan éco-antibio, qui vise à réduire de façon importante, au moins de l'ordre du quart, sur un certain nombre d'années, l'utilisation des antibiotiques. Parce que l'utilisation massive des antibiotiques dans les élevages, évidemment aussi dans les soins humains, hein, par la médecine, mais dans les élevages, c'est un facteur de développement de la résistance des souches bactériennes résistantes aux antibiotiques. Donc on a ce plan de réduction de l'utilisation des antibiotiques, mais normalement il faudrait qu'on ait développé en parallèle d'autres médecines nous permettant de maîtriser les maladies ou de prévenir. Alors il y a l'action de prévention, évidemment, pour les maladies. C'est important d'avoir une alimentation équilibrée pour avoir moins de maladies. Mais bon, ça arrive aussi qu'on a des bêtes malades. Et donc, depuis pas mal d'années, les éleveurs ont recours à l'utilisation des plantes médicinales, soit sous forme d'infusion ou d'extrait sec, ou sous forme aussi d'huile essentielle, qu'on appelle l'aromathérapie, quoi. Et jusqu'à présent, c'était libre. Et d'autre part, on a dans la Drôme un certain nombre de producteurs, d'agriculteurs qui produisent ou qui cueillent des plantes médicinales qui permettent aux éleveurs, donc qui peuvent fournir les éleveurs en plantes. Or, depuis le mois d'août dernier, il y a deux règlements qui nous sont tombés sur la tête. C'est un règlement européen qui réduit considérablement l'utilisation des plantes. Et puis, un rappel du service de l'ANSES, du service juridique de l'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire française, qui fait le point d'arrêt de la Cour de cassation et de la Cour de justice des institutions européennes, qui dit que dès qu'une plante est utilisée dans un but de soin, on est dans un acte thérapeutique et ça oblige à ce que l'utilisation des plantes soit encadrée, définie par un vétérinaire. Et donc là, c'est complètement aberrant parce qu'on sait bien que il y a très très peu de vétérinaires qui sont formés, qui connaissent les soins par les plantes. Et donc, c'est nous interdire d'avoir recours aux plantes. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que beaucoup des plantes médicinales qu'on utilise dans l'élevage de façon courante, elles sont présentes dans notre environnement, dans l'environnement des bêtes, dans les prairies, dans les bois, par les chemins ou les cours de ferme. Et faudra-t-il que les bêtes aient dans leur pâturage, une ordonnance d'un vétérinaire pour avoir le droit de pâturer, quoi. Parce que des bêtes qui mangent du buis, des prêles ou des fougères pour se soigner, s'auto-soigner, elles le font couramment au pâturage, hein, ou des baies de cynorhodon. Qu'est-ce qu'elles font? Elles se nourrissent ou elles se soignent, là? Donc il n'y a pas une frontière, s'agissant des ruminants, il n'y a pas une frontière entre l'alimentation et le soin. Les bêtes, elles savent utiliser un certain nombre de plantes pour stimuler des fonctions physiologiques ou un état de mieux-être, de santé, quoi.
Et votre autonomie et votre capacité quand même naturelle de soigner vous-même, voilà, vos propres bêtes, c'est quand même une vieille tradition, je suppose.
Voilà. Et puis, c'est un savoir, disons, ancestral qui est transmis souvent, où il y a une part d'oralité aussi, hein. Il y a des bouquins, c'est sûr, mais il y a aussi le conseil, tout ça, qui est fait par des collègues ou par des producteurs de plantes. Et puis aussi, il faut le reconnaître aussi dans le public, en dehors de l'élevage, l'automédication est de plus en plus... les gens se soignent eux-mêmes, ils sont de plus en plus connaisseurs aussi, ils ne le font pas à l'aveuglette, ils ont des connaissances... Et ils se soignent de plus en plus avec des plantes qu'ils peuvent se procurer chez des producteurs ou dans des pharmacies, ou eux-mêmes d'ailleurs, au cours de cueillettes dans la campagne, quoi, hein. Donc ça, c'est ce droit à la fois des éleveurs, mais aussi du public le plus large, à s'auto-soigner. Alors qu'on sait bien aussi qu'il y a des médicaments chimiques dans les pharmacies qui sont disponibles sans ordonnance, mais qui peuvent être... utilisés sans discernement, qui peuvent être bien plus toxiques que l'utilisation de plantes. On n'a pas aujourd'hui, moi j'ai pas de référence d'études scientifiques qui montrent que l'utilisation, dans les conditions qu'on a actuellement dans les élevages, qu'on aurait utilisé des plantes de façon toxique, soit pour les animaux, soit pour les consommateurs qui vont consommer après les produits laitiers ou la viande de nos bêtes ou les œufs. On n'a pas d'observation scientifique. D'ailleurs, l'ANSES, dans son avis du mois d'août 2013, c'est ça qui est aberrant, c'est que c'est une agence d'expertise scientifique et elle a produit un document purement juridique. Donc, on peut se demander à quoi ça rime. Le ministère de l'Agriculture a demandé à l'ANSES un avis et l'ANSES lui a produit une expertise juridique. C'est pas le rôle de l'ANSES, ça. Des scientifiques doivent produire une étude scientifique et pas une compilation de textes juridiques.
Alors justement, Jean-Louis, qu'est-ce que vous faites, vous autres éleveurs, comme mobilisation, comme combat? Est-ce que vous pratiquez assidûment la désobéissance civile en continuant à soigner vos bêtes avec des plantes aromatiques?
Il faut dire que la semaine dernière, vendredi dernier, le 4 avril, face à cette situation, il y a un certain nombre d'organisations agricoles du département qui se sont unis pour organiser une soirée d'information et d'échange, aussi bien pour les éleveurs, mais aussi pour le public le plus large. Ça a eu lieu à Eure la semaine dernière, avec des interventions de qualité, de vétérinaires, de producteurs de plantes, voilà. Et parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs organisations agricoles dans le département qui organisent des formations destinée aux éleveurs ou aux agriculteurs sur l'utilisation des plantes avec des praticiens, quoi, hein. Et cela dans le cadre d'un financement par VVA, qui est le fonds de financement de la formation des agriculteurs.
Donc on n'est plus à une incohérence près, quoi.
Voilà.
Alors, si je peux me permettre, Jean-Loup, tout à l'heure, on a fait une bien piètre introduction parce que vous aviez, vous autres éleveurs, un quatrième problème que nous n'avons pas cité dans l'introduction, donc, et qui concernait les abattoirs. Est-ce que tu pourrais aussi nous parler de ce casus belli ?
Alors, dans le Diois, on est un peu vernis, nous. C'est un peu particulier parce que ces dernières années, il y a eu un effort important d'éleveurs et de bouchers, avec aussi les élus de la communauté des communes du Diois, pour rénover l'abattoir de Die. Et on a donc un outil efficace et qui fonctionne bien grâce à toutes ces volontés qui se sont unies. Un abattoir de proximité multi-espèces, où il peut y avoir aussi des bêtes labellisées bio qui sont abattues localement. Mais ce n'est pas le cas d'autres départements. Il y a des départements en France où il n'y a même plus d'abattoir. Et les éleveurs doivent faire des centaines de kilomètres pour faire abattre 3 agneaux. C'est complètement aberrant, quoi. Alors que il existe dans des pays européens, comme l'Autriche et l'Allemagne, des abattoirs à la ferme. Et les éleveurs ont construit des pièces où ils abattent leurs animaux sur place. Alors ça a un gros avantage, c'est que le stress des animaux est réduit au minimum, parce que le transport des animaux vers l'abattoir, surtout s'il est très long, ça donne une situation de stress. Et les bêtes qui sont stressées, eh bien, ça peut avoir une influence négative sur la qualité de la viande. Sans compter la souffrance aussi pour les animaux, quoi. Donc, moi, je pense que c'est un souhait aussi des éleveurs. Et dans différents collectifs en France, il y a cette question des abattoirs se pose. Et les éleveurs souhaitent de pouvoir abattre à la ferme pour leurs propres animaux, quoi, hein, pour les mettre en marché, quoi.
Je suppose qu'avec la paranoïa hygiénique qui règne un petit peu partout, les conditions d'hygiène pourraient être draconiennes, non ?
Oui.
Je me rappelle ce qui s'était passé il y a une dizaine d'années concernant les élevages laitiers, les fromageries de chèvres. Combien d'exploitations avaient dû fermer la boutique suite à des conditions draconiennes quand même ?
Oui, puis ce qui se pose, c'est que s'il y avait des abattages à la ferme, comme en Allemagne ou en Autriche, il y a une visite d'un vétérinaire pour voir la qualité des viandes une fois que les bêtes sont abattues. Il faudrait le mettre en œuvre, cette visite. On suppose que l'administration, surtout dans les conditions actuelles de restriction des effectifs de personnel, ça poserait des problèmes. L'administration fait la sourde oreille à cette revendication d'abattage à la ferme, parce qu'elle ne veut pas s'embêter à ce que des vétérinaires inspecteurs aillent dans des fermes, ou alors même des vétérinaires qui auraient un mandat spécial pour inspecter ces viandes se déplacent. On va avoir des grosses difficultés parce qu'on est face à une administration qui a une visée centralisatrice, quoi, hein, qui n'a pas dans sa logique l'autonomie des élevages et la décentralisation, quoi.
J'imagine quand même pour toute la partie traçabilité que si tous les éleveurs pouvaient abattre à la ferme, pour retrouver peut-être une erreur dans toute la chaîne du froid, etc., ça pourrait complexifier la chose un petit peu.
Mais il n'y a pas de meilleure traçabilité que l'abattage à la ferme, parce que là, on sait que tel agneau, voilà, il vient de telle ferme. Là où il y a des difficultés sur la traçabilité, c'est dans les abattoirs industriels où il y a peut-être des milliers de têtes chaque jour qui sont abattues, et on n'est pas sûr de retrouver l'agneau qu'on a produit à la sortie, quoi, de l'abattoir.
De même qu'il doit être plus difficile, effectivement, d'isoler et de trouver la source infectieuse quand il y a des milliers de bêtes qui passent.
Voilà, tout à fait, oui.
Bon, ça fait beaucoup de motifs d'insatisfaction, dites donc.
Eh bien, oui, mais parce qu'on est dans une phase actuellement, probablement voulue, d'industrialisation à outrance de l'élevage. Rationalisation, fonctionnalité de tout ce qui est de toutes les politiques d'accompagnement qui sont mises en œuvre, et on a un profond sentiment d'insatisfaction et on perçoit cela comme une agression intolérable.
Je suppose que ce combat qui n'a pas fait que commencer continuera pendant quelques temps encore.
Oui, tout à fait. Donc il faut, dans le cadre de cette soirée, vendredi soir, à Puy-Saint-Martin, donc je le rappelle, il faut penser à la solidarité avec nos amis éleveurs qui ont été sanctionnés lourdement. Hein. Un début de cette soirée, c'est de se retrouver et de discuter, mais aussi de s'amuser, parce que c'est festif, mais aussi de collecter des fonds, des ressources pour aider les éleveurs qui sont sanctionnés. Je rappelle aussi, j'ai oublié de le citer, que avant la transhumance festive de janvier 2013, qu'on a organisée dans la Drôme, un éleveur des Baronnies a été aussi lourdement sanctionné pour des irrégularités dans le bouclage de ses animaux.
Sachant que, rassurez-vous, braves gens, ce ne sera pas qu'une soirée politisée, ce sera aussi une soirée festive, comme tu le disais. Est-ce que tu pourrais justement, Jean-Louis, puisque c'est toi qui as le papier, nous rappeler qu'est-ce qui attend les gens qui pourraient faire le déplacement ?
Alors, c'est vendredi 11 avril à la salle des fêtes depuis Saint-Martin. Hein, donc, c'est en gros entre Cray et Montélimar. Hein. Donc à partir de 19h30, apéro musical avec de quoi grignoter, hein, merguez, crêpes. Et donc à 20h30, Rosie Volt, qui est une clown que personnellement je ne connais pas, mais qui est très efficace pour faire amuser tout le monde. Et donc, c'est pas une soirée politique, entre guillemets, c'est une soirée. Il y aura quelques interventions d'éleveurs qui vont expliquer ce qu'ils ont subi et leur point de vue. Mais il y a cet aspect fort festif. Et puis, à partir de 22h, le Taraf des Trois Becs, beaucoup de Diwas doivent connaître un groupe de saillants, donc qui est très bonne musique. Voilà. Donc, venez nombreux.
Ben je te remercie, Jean-Loup, d'être passé à la radio pour nous transmettre ces messages et nous inviter à cette fête à Puy-Saint-Martin, vendredi, à la salle des fêtes, à 19h30.
Ok.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
Interview.
Interview. Ok. Bye-bye.
L'interview du jour. L'interview du jour.